j'ai fait une trajectoire parallèle entre cette fille qui est dans sa colère, dans sa rage, dans son esprit de vengeance, et le cheval qui est au début. Pareil, c'est des chevaux monstres, hein, les chevaux de foudre, ils sont capables de décharger l'électricité et de pouvoir électrocuter les gens qui s'approchent d'eux. Donc voilà, tous les deux vont en fait avancer en parallèle, l'un grâce à l'autre, et pouvoir avancer vers comment se libérer en fait de cette situation terrible d'être esclave, le cheval et la fille, des serments et des curies.
On va tout de suite lire un autre petit extrait, La fille de Tchernobyl, et vous allez voir, il y a une scène qui se termine quasi pareil.
Elle se figea de stupeur. Sur le bitume défoncé entre les maisons fantômes, se tenait un petit cheval. En un éclair, elle le détailla. La bête ne ressemblait en rien au cheval ordinaire. C'était un mâle robuste, dont la stature massive, presque carrée, donnait une impression de force brute. Impression renforcée par son rein court, son large poitrail et sa forte encolure. Lana estima par rapport à sa propre taille que les talons mesuraient environ 1,40 m au carreau. Sa robe Isabelle s'éclaircissait en un blanc crème sur le ventre et sur le nez. Des balsames brunes le chaussaient jusqu'aux genoux. Une ligne de poils noirs courait le long de sa colonne vertébrale. Chose extraordinaire, sa crinière tenait droite comme une brosse à dents. Lana, fascinée, n'osait même plus cligner des yeux de peur que la merveilleuse apparition ne se volatilise. Face à elle, le cheval, tout aussi surpris, s'était immobilisé tel une statue de bronze. Elle avait conscience de vivre un instant unique et s'efforçait de graver la scène dans son esprit. Les poils lisses chauffés par le soleil qui frémissait, le vent parfumé qui balayait une feuille morte sur la route, le bleu lumineux du ciel, une émotion joyeuse l'envahit. Je ne te veux pas de mal, chuchota-t-elle.
Voilà, vous avez vu deux scènes, bien sûr racontées différemment, mais moi, chaque fois, le personnage va rassurer l'animal. Et je pense que c'est évidemment pas par hasard, Aurélie, qu'on retrouve un petit peu le même type de scène dans vos deux romans.
Bah justement, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'ils sont en face à face et elle est à pied. Elle ne cherche pas à monter sur son dos. Elle est vraiment. Les deux filles sont dans un rapport à l'animal qui n'est pas celui de la domination. À un moment dans la ville de Tchernobyl, d'ailleurs, la fille essaie de monter sur son dos, le cheval la désarçonne et elle comprend qu'elle a vraiment fait une erreur. Elle a voulu faire quelque chose qui n'était pas respectueux de l'animal à ce moment-là et elle ne le fera plus jamais. Donc voilà, vraiment, dans les deux scènes, on voit bien comme les filles sont face au cheval et sur un rapport vraiment d'égalité avec l'animal. Ça, c'est quelque chose que. Moi, je veux faire passer dans ces romans de chevaux. Et dans Chevaux de foudre, ça, c'est assez clair comme message, je crois, que je fais passer dans le roman. D'un côté, il y a les hommes de l'écurie de course qui veulent casser les chevaux de foudre, pour les mettre sur la piste du cirque Maxime pour gagner de l'argent grâce au pari. On est dans un rapport vraiment de domination. On va casser l'animal pour le dompter. Et la jeune fille, Alix, elle va être dans un rapport de s'en faire un allié, de s'en faire un ami, elle est dans un comportement plus éthologique. Donc voilà, ça c'est un peu ma petite diatribe sur les clubs équestres. Je suis vraiment plus sur un rapport à pied avec le cheval, plutôt que de monter sur son dos pour dire, bon ben voilà, maintenant tu vas me transporter quelque part. Donc, et je crois que dans La fille de Tchernobyl, je peux spoiler, c'est pas vraiment un spoil, la fin c'est de dire, la nature, nous n'avons pas besoin des hommes. Nous n'avons pas besoin de vous. Le cheval, en gros, enfin, il ne lui dit pas, évidemment, comme ça, c'est pas un cheval qui parle, mais il va retourner à la nature et voilà, j'ai pas besoin de ton aide. C'est moi, je suis. C'est cette force-là de la nature, vous savez, qui entoure la centrale. C'est après la centrale accidentée, il y a eu plein d'animaux qui sont revenus vivre autour de Tchernobyl et il y a des loups. Et notamment, il y a
adolescent et une vie adulte. Je pense qu'il n'y a pas de vraie différence dans la façon dont on écrit Aurélie pour des grands adolescents et des adultes. Peut-être commencer par la voix des fausses, tout simplement, qui est par ordre chronologique. Je ne sais pas quel numéro, mais en tout cas, ça va être le quatrième, si je ne me trompe pas. Oui, quatrième roman. Et puis c'est les deux, et celui-là, le quatrième roman. Et pas dans l'autre, puis ça n'intercale pas avec les autres. Toujours est-il que le roi des fausses marque aussi un petit peu. C'est un roman qui a bousculé l'ensemble du lecteur, je pense. En tout cas, il a plus. Il a bousculé, et c'était un des objectifs. C'est un peu. Vous en parliez dans une entrevue. Ce qui, entre autres, vous a un petit peu donné envie de travailler sur ce personnage, ces thèmes. Le persécuteur, un peu le personnage un peu violent, fou, qui va tout ravager ce passage. C'est une légende nordique. Et entre autres, c'est une conférence débat qui a eu lieu ici, d'un logique, je ne sais plus son nom, peut-être, mais Régis Boyer, qui est le grand spécialiste des Vikings et de toutes les légendes nordiques. C'est un, malheureusement, maintenant, il est très âgé, il ne peut plus se déplacer. Sinon, on l'aurait réinvité. Il a vraiment passionné un public qui, franchement, ne connaissait pas. Et il a marqué beaucoup de gens. Il a même décidé d'aller voir Rodi au Pont dans un festival d'imaginaire. Et c'est quelqu'un qui est passionnant. C'est quelqu'un qui, si vraiment ces sujets vous intéressent, faites-vous offrir un jour le cadeau du Pléiade qu'il a. Il est reconnu vraiment. Il a fait le Pléiade sur ces sujets-là. Régis Boyer, un nom vraiment à retenir si vous intéressez aux mythologies nordiques. Donc voilà cette rencontre avec un spécialiste des mythologies nordiques. Et ça vous a donné envie, Aurélie, d'écrire Le Roi des Fauves. Alors, avant qu'on lise un petit extrait, dites-nous-en un peu plus sur ce roman et sa genèse.
Justement, oui, c'est très amusant cette anecdote. En fait, j'étais partie sur l'idée de faire une sorte de Hunger Games avec des loups-garous. La genèse de Rendez-vous, c'est ça. Donc, je m'étais dit, oui, ça va être des personnages qui vont s'entretuer dans une sorte d'arène naturelle et qui vont se transformer en loups. Et en fait, après, je me suis dit, c'est pas très original quand même ton idée loups-garous, il faudrait trouver autre chose. Et je pense que c'était à peu près à l'époque où j'étais aux Imaginaires, où il y a cette conférence de Régis Boyer, et il a parlé entre des berserques et alors je vais c'est le rameur, c'est un peu un esprit totémique de l'animal qui vit dans les hommes. Et il a parlé du guerrier loup, du guerrier sanglier, du guerrier ours. Et j'ai trouvé super génial. Je me suis dit, mais oui, voilà ce qu'on pourrait faire. On pourrait faire une métamorphose qui soit sur plein d'animaux et sur ces animaux de la mythologie nordique, sur ces guerriers fauves. C'est pour ça que ça s'appelle le roi des fauves, parce que le berserk, c'est un guerrier fauve. Donc il y avait trois animaux, mais là, moi, j'en ai fait beaucoup plus. Et je suis parti donc de la mythologie nordique, aussi du jeu vidéo, parce que moi, je suis une joueuse, je joue. Et notamment de Skyrim, qui est un jeu qui se passe dans un univers nordique glacé, avec des grandes étendues que j'avais pas mal photographiées pour faire les paysages du roi des fauves. Et il y a tout un bestiaire dans ce jeu vidéo, dans Skyrim, qui est un bestiaire un peu préhistorique et primitif. Donc c'est des animaux de la forêt, il y a des énormes cerfs, il y a des loups évidemment, il y a des tirs dans le sabre. Donc voilà, je viens un peu fusionner la mythologie nordique, l'inspiration de Skyrim, pour recréer donc cet univers-là. Et donc pour l'histoire de Hunger Games, donc c'est des jeunes qui vont être âgés. Et les trois personnages du roman sont condamnés avec d'autres en fait à ingérer un parasite qui va les métamorphoser en bêtes, mais pas n'importe quelle bête, des bêtes enragées, des bêtes qui vont courir partout pour dévorer leur prochain. Donc, non seulement il y a cette angoisse de la métamorphose, parce qu'elle est très lente, hein. C'est pas comme le loup-garou, c'est pas la pleine lune et on se métamorphose. Mais c'est une métamorphose qui est lente, qui va durer 7 jours à peu près. Donc, ils ont le temps de se sentir partir, ils ont le temps de voir les cornes, la fourrure, les crocs arriver, et surtout cette pulsion monter en eux et les dévaster. Donc, vraiment, l'objectif du roman, des personnages, c'est de se dire mais comment on va contrecarrer cette malédiction. Il faut absolument qu'on y arrive, sinon dans quelques jours on va s'entre-dévorer entre nous. C'est trois amis, ils se connaissent depuis toujours, c'est des amis d'enfance. Donc s'ils dérapent, c'est fini pour eux, ils vont se bouffer. Donc ils restent ensemble et ils essaient de trouver une solution pour échapper à cette malédiction.
Arsena pour se relever, mais le monstre dévala la pente et, avec une délicatesse insoutenable, posa son énorme pied sur la cage thoracique du garçon, le clouant au sol. Hiver prit une inspiration sifflante. Jamais il n'avait été aussi proche d'un persécuteur. Et pour comble de malchance, il fallait qu'il s'agisse d'un des spécimens les plus imposants de cette race maudite. Leur adversaire était un épouvantable hybridation d'hommes et de mammouths. Dépassant les 2 mètres, il se tenait sur de puissantes jambes humaines, aux cuisses noueuses comme des troncs d'arbres. Un cuir épais, couturé de cicatrices, durcissait son torse. Sa formidable tête velue semblait posée sur ses épaules massives, comme s'il n'avait pas de col. Dans sa trompe, il brandissait une masse d'armes, et quelqu'un avait scié ses défenses pour les remplacer par 2 énormes sabres tachés de brun. Il empestait le four, la terre et le sang, mais le plus terrible restait ses yeux. Les yeux de l'homme qui avait été jadis.
Lors de la métamorphose, comme de la métamorphose, on verra que c'est un baiser, mais on commence à le sentir. De votre œuvre, pourquoi ce thème vous travaille, Aurélie de Wallenstein?
Je crois que je suis partie il y a bien longtemps du thème du devenir démon. C'est quelque chose qui m'a toujours séduit. Moi, je suis sur les devenirs, j'ai fait mon mémoire de maîtrise de lettres sur le devenir cheval. Un poète contemporain, donc c'était un drôle de sujet. C'était le cheval qui apparaissait dans ses œuvres de poésie. C'est vrai que j'avais décidé de travailler sur son œuvre. Et donc, plus particulièrement, le devenir démon, la trajectoire d'un personnage qui part, qui est quelqu'un tout à fait normal et qui finalement va à travers des événements s'endurcir et déraper dans les ténèbres. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours envie de faire. Et je ne sais pas si j'ai réussi à ce jour, si ça reviendra, si je le ferai dans un roman futur. Mais c'était peut-être plus que la métamorphose simple, vraiment cette trajectoire-là, de la lumière à l'ombre, qui m'a intéressé.
Quelle est la place finalement dans le roi des fauves pour les êtres humains?
Moi, c'est vrai que c'est peut-être un peu pessimiste, mais les humains du roi des fauves finalement ne sont pas les personnes les plus sympathiques. Notamment, il y avait dans une conférence qu'on avait faite aux Imaginales, la toute première d'ailleurs en 2015, Jean-Luc Rivera m'avait dit: mais en fait, le monstre dans ton histoire, c'est l'homme. C'est pas très joyeux, mais c'est assez noir. Mais effectivement, toute cette histoire commence parce qu'ils ont été condamnés par un homme, par un autre homme. Par un jeune seigneur qui a dit: je vais faire de vous mes petites choses de compagnie.
Après, le roi des fauves, autre roman, Les loups chantants, là aussi un titre un peu surprenant, Les loups qui chantent, hein, quand j'avais entendu. Là aussi plein pied dans ce roman, avec Céline qui va nous lire un petit extrait.
Yuri s'avança autant qu'il l'osa dans le blizzard. La tempête se déchaînait et le vent rugissait à ses oreilles, le poussant en avant, en arrière, même dans son manteau en peau de reine. Pour progresser dans cette furie blanche, les deux marchaient pas à pas avec ses raquettes, courbées en deux, un bras replié sur la tête, mais même ainsi, les brosques lui coupaient la respiration et les flocons lui lapidaient le visage. Il finit par s'immobiliser, le souffle court, les cuisses et les bottes matelassées de neige. Lentement, il se redressa. « Venez, » dit-il à voix basse. En apparence, il était seul. Les flocons tourbillonnaient autour de lui, sa vue s'arrêtait à 1 mètre, et les sifflements aigus du vent couvraient tout autre bruit. Pourtant, grâce au don psychique qui lui lia l'esprit des animaux, Yuri devinait la présence des loups. Indifférente à la fureur du blizzard, la meute se rapprochait en silence. L'adolescent se planta face à eux, il enfonça les poings dans ses poches et attendit. Le roulé de son manteau battait contre ses bottes, les pans de son écharpe se déroulaient autour de ses épaules. Sur le contour de sa capuche, des glaces sont de plus en plus nombreux, cristallisaient la fourrure.
Là aussi, cette fois-ci, on passe à un autre type d'animal, on passe au loup, mais du loup un peu particulier, des loups qui parlent par la tête de certains personnages, des loups qui attirent vers eux et vers les étendues glacées des êtres humains. sans qu'on sache très bien, en tout cas tout au début du roman, et même beaucoup de pages du roman, si c'est l'eau nous promettent bonheur ou malheur, la vie ou la mort.
En fait, pour les loups chantants, je fais partie du mythe de la sirène. Donc, c'est les loups attirent leur proie avec, avec les chants. En revanche, c'est le personnage principal, il a perdu son amour il y a un an à peu près. La jeune femme, elle a disparu, elle s'est enfoncée dans le bizarre. Et un an plus tard, il pense tout le temps. Il est en deuil, il ne sait pas s'il y a des portes. Il espère qu'elles sont encore là. Et cette jeune femme a rejoint les loups. Est-ce qu'elle s'est fait manger par les loups? Qu'est-ce qui lui est arrivé vraiment? Il n'en sait rien. Tout le monde lui dit, mais arrête, mais stop, elle est morte. Et ton deuil, elle est partie. Donc, quand l'histoire commence, ça sort ton malade, et donc ils ont besoin d'aller à l'hôpital qui est à 1000 km de là, ça se passe dans une Sibérie fantastique. Donc, ils prennent le traîneau à chien, ils partent, et presque immédiatement, ils sont pris en chasse par la meute de loups chantants. Et la louve de tête, avec ses chants, s'infiltre dans sa tête, et commence à lui parler, et lui dit, mais c'est moi, c'est Asia, je suis ton ancien amour, viens avec moi, rejoins-moi. On sera libre, on sera heureux, on sera des loups tous les deux, on chantera. Il ne sait pas du tout, enfin, il se dit, mais c'est pas possible. Et puis, c'est les loups chantants, on sait que ce sont des prédateurs qui rendent fous les gens. Donc, il se dit, c'est un mensonge, ça ne peut pas être elle. Si je la rejoins, si je fais la folie de la rejoindre, elle va me saigner, elle va mettre en l'air, elle va me dévorer. Donc, c'est une énigme, en fait, qui court tout au long du roman, de savoir qui est cette louve. Est-ce que c'est vraiment une prédatrice qui veut le saigner au fond de moi, ou est-ce que c'est vraiment cette fille qui a rejoint les loups, qui s'est métamorphosée en loup, et qui vient le chercher pour faire le même processus. Donc, ici, il y a deux courants qui sont en même temps. C'est donc la veine fantastique, le prédateur, le loup monstrueux, cette peur primitive d'être dévoré, et en même temps, un aspect beaucoup plus positif et créatif. Donc, cette histoire, je l'ai aussi écrite parce que j'ai lu « Femme qui court avec les loups », que je vous recommande chaudement si vous ne le connaissez pas. Et c'est le loup pour l'auteur et une valeur créative. C'est le réveil du soi sauvage, de la femme sauvage, elle appelle ça l'auteur. Et donc c'est un peu ça que je veux exprimer à travers ces loups chantants. Les loups chantants, eux, c'est le retour au sauvage. C'est le retour du refoulé que nous, on a tous refoulé, nous les citadins qui vivons à l'abri des quatre murs de nos maisons dans les villes et qui avons un peu oublié, c'est notre instinct. Notre instinct animal. Et donc, voilà, ce que la louve lui dit d'une certaine façon aussi, c'est libère-toi du carcan de la société, viens avec les loups, viens courir et tu seras heureux. Et voilà, bon, bah, après, la réponse est vraiment tout à la fin. Donc, ça, je vous laisse découvrir si vous le souhaitez.
Il y a toujours cette tension, on le voit, il y a une sorte d'échéance aussi, c'était présent dans le précédent roman, donc dans Le Roi des Fauves, et on le retrouve dans le chantant, il y a une sorte de timing, voilà, exactement, et c'est quelque chose qui traverse, on verra dans le prochain roman, le dernier, mais on va en reparler tout à l'heure, là on va quand même poursuivre un peu dans le roman, et c'est vrai que c'est bien quand on pas toujours, quand on a quatre auteurs sur la tribune, mais quand on a une on peut prendre un peu de temps et lire plusieurs extraits vous permet d'entrer dans la voix de l'auteur. Sylvain.
Yuri, prends garde, avertit la louve. Des patricères juste derrière lui. Au moment où il faisait votre grâce, des mains se refermèrent sur sa gorge. Après Les chiens aboyaient, mais ils entendaient à peine. Même la présence de la louve s'affaiblissait dans son esprit, alors que la ville le quittait. Puis tout à coup, l'étreinte d'Anastasia se desserra. La boulet d'oxygène du priori lui brûla la gorge et chancela en arrière. Pendant une seconde, les iris d'Anastasia s'éclaircirent en un bleu lumineux et la louve le dévisagea par les yeux de son ami. Anastasia cligna des paupières. Son effroyable masque impassible redevint mobile. Qu'est-ce que j'ai fait ? Balbutia-t-elle. Yuri, qu'est-ce que je t'ai fait ? Je ne voulais pas, c'est plus fort que moi. Je sais, la rassura-t-il d'une voix éraillée. Il avait l'impression que quelque chose allait éclater dans sa gorge. Il passait mal, ses poumons le tiraillaient encore. Ses tempes, ses yeux pulsaient au rythme de son cœur. Le chaman t'a envoûté, expliqua-t-il entre deux termes de toux. C'est la louve qui l'a chassé. Je l'ai senti, murmura-t-elle. La louve est entrée en moi. Elle palpa son visage, les mains tremblantes. Je ne veux plus jamais revivre cela.
Donc, dans tout le roman, on a cette interrogation sur est-ce que les personnages sont hantés ? Est-ce que l'animal s'empare du personnage ? Est-ce que ce sont des pulsions intimes du personnage ? Je ne vais pas répondre parce que sinon c'est pas drôle. Il faut que les lecteurs puissent les découvrir. Ce sont des thèmes qu'on trouve très fréquemment. Et peut-être que aussi, peut-être qu'en mettant en scène ce type de rapport à l'animal, avec des guillemets, parce qu'ils ne sont pas tout à fait des animaux comme les autres, animaux fantastiques, animaux de fantaisie, est-ce que quelque part vous n'évoquez pas aussi une problématique humaine ? Est-ce que ce n'est pas une façon d'être humaine ? Est-ce que ce sont aussi vos personnages humains qui, quelquefois, perdre le contrôle.
Enfin, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est cette part animale qu'on a en nous. Et aussi, dans le roi des fauves, ça rejoint un peu le thème de la métamorphose. Et il y a un personnage qui le vit de façon positive. Et je trouvais ça intéressant de contrebalancer aussi plutôt que l'aspect que angoissant de la métamorphose. Aussi, d'un point de vue technique, moi, ce qui m'éclate, c'est que là, avec la louve, elle est à la fois adversaire, mais aussi adjuvante. Et d'un point de vue dramatique, je trouve que ça donne souvent des histoires assez attrayantes, assez séduisantes, où on peut un peu brouiller les repères et où ce soit moins manichéen. Donc là, vraiment, cette créature, qu'on sache plus du tout où on en est.
Finalement, c'est nous qui rentrons dans la tête des gens, c'est ça qui les rend fous, ou est-ce que c'est leur propre folie qui les pousse à rejoindre les loups chantants ?
Je ne sais pas si c'est de la folie, c'est peut-être un désir de liberté aussi. Donc, je ne sais plus ce que je vais vous dire à ce sujet. Sur le deuil, enfin, au niveau des loups chantants, c'est un roman qui parle beaucoup de la mort aussi. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous repréciser ça quand je vous parlais du fait qu'il est en deuil avec cette fille qui est partie. Et en fait, ce que j'ai voulu aussi exprimer à travers ce roman, et que la louve lui dit, c'est moi, je suis ton ami, en fait, c'est qu'il la voit partout. Parce que. Excusez-moi, je suis en train de. C'est quelque chose que j'ai vécu. En fait, c'est mon roman le plus personnel. J'ai voulu vraiment raconter, en fait, le deuil que j'ai traversé à travers les loups chantants. Et voilà, ça décrit à peu près les étapes par lesquelles on passe. Non, on les voit, on va les mettre aimés partout.
C'est aussi ça aux imaginales. C'est que quelque part, on se rend compte qu'un roman qui nous touche, qui nous parle, qui évoque des choses chez nous, c'est aussi évidemment quelque chose qui vient souvent, à moins que ce soit un artifice, et dans ce cas-là, on ne va pas le faire un vrai écrivain, mais un faiseur. On a quelque chose qui nous touche profondément, et l'écrivain aussi. C'est à partir de sa propre histoire, de ses propres émotions, et que quelque part, c'est elle qui nous offre, c'est qu'y compris à partir de sa douleur, de sa relation montée, et de construire quelque chose pour avancer dans la vie, c'est ça qui nous transmet. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce roman en particulier, d'Aurélien Einstein, peut-être plus justement, avant de passer au prochain, je vais te lire encore un petit extrait pour nous donner envie de le lire et de le découvrir.
Ils avançaient depuis 2 heures dans le thème. Anastasia progressait sur la gauche avec les Groenlandais. Kira et Yuri se relayaient derrière les huskies. Seul le bruit de leur souffle, le chantement soyeux des patins glissant sur la neige et le tapotement des coussins. collaient sur le froid et poussaient le traîneau, le visage perdu dans la brume de son souffle. Les écailles de glace scintillaient au soleil et lui donnaient paradoxalement un air radieux. Elle est tellement vivante, songea-t-il avec une tendre mélancolie, tellement jeune.
Voilà un roman vraiment qui vous devrait vous plaire et que je vous encourage vraiment à lire. La mort du temps, alors là, on change complètement d'univers. On va retrouver les morts, on va parler évidemment les obsessions, les thèmes, les choses qui touchent Aurélie, mais on passe brusquement, là, c'est déjà vous que j'ai été étonné, d'ailleurs le titre, hein, ce n'est pas les titres habituels. Bon, est-ce que ça ressemblerait pas à un roman de science-fiction, alors que j'ai cru avoir affaire à une auteure de romans de fantasy. Et finalement, on est dans un roman qui parle du temps, sinon on n'aurait pas ce titre-là. C'est aussi un roman post-apocalyptique, c'était le thème d'ailleurs de la conférence précédente. Comment on pourrait dire, peut-être le prologue tout simplement, de façon à vraiment rentrer. C'est pas très long, je pense qu'il va pouvoir nous faire ça. C'est une page et demie à peine. Prologue du roman, La mort du temps. Vous allez lire tout de suite.
Prologue. À côté du balcon du 16e étage, Calista observe l'étoile bleue gris de Paris. Et ça et là du rougissant des petites cheminées. Une regard confuse remontait vers elle, la voix profonde de la foule et de la circulation, le cliquetis de la vaisselle que l'on range, le bourdonnement d'une télévision. La respiration calme de la ville en ce soir d'été contrastait avec les hurlements de ses parents en scène. Le cri se rapprochait dangereusement. La jeune fille se raidit, les doigts serrés sur la rambarde en bois, au point de sentir les écharpes piquer les poumons. Le sac de voyage était bien dissimulé sous son lit, mais elle s'invitait quand même d'être découverte. Les yeux dérivant sur l'océan de zinc et d'ardoise bleuâtre, elle se demanda si ses parents se disputeraient toujours une fois qu'elle serait partie. Sans doute que oui, peut-être même jusqu'à l'explosion. Quelque chose se modifia dans l'air, une nuance subtile et une puissante sensation de danger la saisit aux tripes. La brise lui apportait une chaude odeur de poussière. Le ronron du quotidien se muait en un grommellement à peine perceptible, mais qui s'amplifiait de seconde en seconde pour se changer en un grondement grave, pareil à l'orage. Ça vient, pensa-t-elle, sans savoir de quoi il s'agissait. Le bruit devint assourdissant, le vent s'engouffra dans ses cheveux et rejeta derrière ses épaules. Les babioles dégringolèrent des étagères. Scarance était dessus. Une boule de lumière surgit à l'horizon, l'obligeant à plisser les yeux. L'éclair aveuglant s'élargit en un cercle concentrique, comme l'onde de choc d'une bombe. Désintégrés par l'impact, les immeubles s'effritèrent. Les toits bleus, les rues grises, les parcs verts, les voitures et les gens, tous disparurent en un éclair. Calista resta pétrifiée, cramponnée à la rambarde du balcon. L'espace d'un battement de cils, elle eut la vision curieusement sereine de la fin du monde. Un brouillard rouge assombrissait l'horizon. Des cendres tourbillonnettes comme des flocons de neige. Cela donnait l'impression étrange que la terre s'est décomposée et que ses fragments se dispersaient dans l'air jaune. Puis, l'immeuble se mit à trembler, les murs se fendirent, le bruit emplit la tête de Calista, abominable, et l'abîme d'un coup s'ouvrit sous ses pieds.
Voilà, on y est complètement, ça pourrait être un peu un début de ravage, ça pourrait être un roman de carbordage aussi qui démarre sur un monde, un effondrement d'un monde technologique, en gros un peu vraisemblable au nôtre. Et ce prologue donne pas une idée du roman parce que, pas trop vous en révéler, mais vous verrez qu'au début, on est dans Paris. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Aurélie participera. Je vous y renvoie, Café littéraire sur le thème de Paris, des romanciers qui ont parlé de Paris. Et c'est vrai qu'une partie importante du roman, du début en tout cas, se passe à Paris. Mais très vite, une sorte de road movie en direction, non, pas du Nevada, pas de la Californie, de d'où déjà, et pas de l'eau.
Mais rouge. Donc j'avais bien envie de faire que la destination soit épinale d'ailleurs, moi j'ai dit bon, exagère pas quand même. Le clin d'œil est un peu haut. Donc c'est choisi une petite ville à côté qui s'appelle Xartigny, qui est du département. Alors c'est marrant que tu cites le roman Pierre Bordage, parce que oui, tout à fait, je l'ai lu. C'est le feu de Dieu. Et ça démarre par, j'en parlerai sans doute à la conférence de Café Littéraire ce soir, sur Paris qui est victime, hein, c'est des éruptions volcaniques, hein, qui créent une apocalypse dans le monde entier. Et vraiment, la scène d'ouverture à Paris, elle est il y a une fracture qui se fait sous le lit du fleuve, et toute l'eau s'en va, d'un coup les péniches tombent sur le sol et le pont se fracture. C'est complètement fou. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu le début, il y a donc, pareil, dans le lien, c'est un séisme temporaire, ça fracture complètement Paris. Et j'avais vraiment bien en tête le phénomène de bordage quand j'ai fait. Je me suis dit, ouais, moi aussi, je vais casser Paris. Donc voilà, c'est mon rapport à haine, à ma ville. Vraiment, c'est pas une leçon.
Peut-être un petit extrait.
Et un petit passage qui va très bien. Elle déboucha enfin sur le parvis de Notre-Dame et machinalement en détaillait la façade. À mon frisson, il parcourut les chemins. La cathédrale était couverte d'os qui épousaient son architecture de façon grotesque. Les trois portails, les niches avec leurs statues, les tours jumelles carrées et même l'immense rosace, tout paraissait taillé dans l'ivoire d'os humain. Voilà où étaient passés les squelettes du quartier. La jeune fille voulut accélérer pour s'éloigner le plus possible, levant de grandes éclaboussures à chaque enjambée, mais sans réussir à détourner les yeux de cette horreur. Puis, ce qu'elle avait pris pour une gargouille, bougea. Un oiseau gris et décharné, accroupi sur un pignon, déploya ses ailes membraneuses, et elle reconnut, effarée, un ptérodactyle.
Voilà, on est presque dans chez Tardy avec Adèle Blanc-Sec, avec le ptérodactyle. C'est aussi un canal ou un hasard?
Non, ça, je ne l'avais pas pensé. Moi, j'avais très envie de faire cette Notre-Dame des Os, qui est une des visions un peu saisissantes au début du roman. Et les gargouilles, effectivement, qui sont en réalité des oiseaux qui sont immobiles et qui s'envolent à un moment. Aussi, ce que je voulais te préciser avec la trajectoire des personnages qui partent vers l'Est, c'est que j'ai aussi. Je me suis appuyé sur ce que je connais. C'est-à-dire que je suis parti par les quartiers que je connais bien. L'héroïne Calista, en fait, elle traverse le Buchomont, des Buchomont complètement incroyables. Hein. C'est l'ancienne version des Buchomont dans le 19e. Après, elle passe à peu près par la porte de Pantin. J'ai habité là, donc je sais bien. C'était plus facile pour moi, après, de métamorphoser ces quartiers qui étaient des quartiers que je connaissais. Elle prend la N3, elle passe au-dessus du canal de Lourdes, etc., etc. Donc, c'est aussi pour ça que je choisis les Vosges, parce que comme tu connais, ça m'a permis de mettre en scène et de délirer un peu. De ces paysages que je connais bien.
Il y a aussi un personnage qui fuit un danger. On retrouve ou alors qui se précipite, ça dépend des romans, mais on retrouve toujours un peu cette pulsation à rythme. C'est pas pour ça que c'est du pachetonnage systématique, c'est pas le but, mais en fait, c'est ça, c'est un effet hypnotique. Il y a une urgence toujours dans vos romans, de Randy Weinstein.
Je crois qu'en fait, c'est ce type de mouvement qui vient du jeu vidéo. Je pense que c'est une trajectoire un peu horizontale où un personnage va partir d'un point A, et va aller vers un point B et va traverser des niveaux. En quelque sorte, va faire des rencontres, va affronter des boss, va progresser pour aller jusqu'au bout. Donc ça, je crois que typiquement, c'est des trajectoires qui viennent plutôt de la narration vidéoludique. Et d'ailleurs, il faut beaucoup m'en méfier parce que j'ai tendance à faire trop dans ce type de narration. Le rythme pour moi c'est très précieux, j'essaie vraiment d'avoir une plume assez énergique, d'être sur du muscle. C'est pour ça que mes romans sont aussi assez courts, c'est du 400 000 signes, les trois, vraiment du temps les mouches entendent, la voix défend. Et finalement je vais couper tout ce qui me semble être ce qu'on appelle les ventres mous. Je vais les faire sauter pour garder quelque chose d'assez énergique, assez tonique. Par ailleurs, ce que je voulais vous dire au niveau technique, c'est je prends garde à être dans une écriture du mouvement, c'est-à-dire de faire des descriptions dans le mouvement, d'être dans une dynamique toujours assez punchy, et d'être visuel, de faire attention au côté cinématographique. Alors ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai appris de Stephen King. Quand j'avais 13 ans, il y a une copine qui m'a offert Cimetière de Stephen King. Pour moi, c'était une révélation. Je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Et Stephen King a cette façon d'écrire comme dans un film. Et ce que j'ai repéré chez lui, que j'utilise dans mes propres textes, c'est l'attention qu'il porte aux éclairages. Je trouve ça très intéressant dans les descriptions de parler d'où vient la lumière et des ombres. Parce que je trouve que ça met du relief dans la description et assez pictural à la scène.
Peut-être un dernier mot, un petit extrait, mais vraiment court, parce que le temps passe et il va falloir prévoir déjà le prochain départ.
Elle eut l'impression que ses jambes se terminaient par des moyens sanguinolents. Puis elle ne sentit plus ses pieds du tout et elle hurla. Un cri terrible, chargé d'une peur atroce. Son propre cri lui fit si peur que cela la ramena à la réalité, au présent de la marche. Elle avançait. Le flash pulsait derrière elle. La lune se déplaçait lentement dans le ciel. Le jour viendrait et les angoisses nocturnes se dissiperaient dans les lumières de l'aube. Jamais elle n'avait connu une nuit aussi longue. Elle frotta ses paupières collées, puis un peu, dans un kit-kat. Ses provisions s'amenuisaient. Il ne lui restait qu'un fond d'eau et les oréos. Pourquoi ne s'était-elle pas rassurée davantage? Il lui faudrait peut-être marcher des jours et des nuits entières avant de trouver du secours. La nourriture lui permit de reprendre ses esprits pendant quelques minutes, mais trop vite elle se remit à sommeiller par un coup, sursautant à chaque fois qu'elle trébuchait, le corps glacé de sueur. Pouvait-on réellement s'endormir en marchant? Son esprit au bord de la rupture lui jetait des visions. Son père, sa mère, Emma, Notre-Dame des Os et les pterodactyles, Quentin du métro, l'homme rat. Laissez-moi, murmura-t-elle d'une voix pâteuse.
Alors, on a bien compris que ce flash, cette pulsation temporelle qui détruit l'héroïne court et derrière, la menace continue à avancer. On se demande d'ailleurs où elle va pouvoir s'arrêter et où la menace va-t-elle s'arrêter si elle s'arrêtera un jour. Évidemment, ça, vous le découvrirez en lisant la mort du temps. On approche vraiment de la fin de cet entretien. Je suis tout à fait ravi. Je trouve qu'on a eu vraiment une discussion intéressante. On a commencé, je pense, à entrer dans le livre, dans votre univers. Finalement, la question de confiance, celle que je pose toujours à la fin du festival, dans le dernier café littéraire que j'anime, mais je vais la poser tout de suite à Aurélie Wallenstein. Pourquoi vous êtes écrivain ou écrivaine, Aurélie Wallenstein?
Moi, je n'ai pas choisi. Ça m'a vraiment choisi. Je pense que j'ai eu ce désir depuis que je suis toute petite. Vraiment, c'est dans. Je pense que j'ai eu cette première envie. Quand on me demandait, bah, tu veux faire quoi comme métier, je me disais, bah, je vais être fermier écrivain. Donc, c'était mon truc. Et ça ne m'a jamais quitté. Moi, j'ai même presque l'impression d'être hanté par ça. On parle beaucoup de mes personnages qui sont hantés. Moi, je suis hanté par l'écriture. C'est plus fort que moi. D'ailleurs, je pense que chacun d'entre vous, pour ceux qui écrivent, je sais qu'ils sont nombreux ici, on en a besoin, sinon on va mourir. Et je profite de pouvoir un clin d'œil à Mickaël, à mes amis du forum Cosiflix. Je fais partie d'un forum d'écriture en fait où on se relie les uns les autres pour améliorer nos textes. Je pense que j'aurais pas été publié sans le soutien et l'aide que j'ai eu de la part de ces personnes qui m'ont aidé avec bienveillance à améliorer mes textes, notamment dans le bas des fauves, Axel, qui est dans la salle et qui m'a mis une vraie claque au début. Mon texte m'a dit non, mais attends, ça va pas. Enfin, voilà, c'était un vrai tsunami, mais c'était très sympa. Et voilà, maintenant il est publié, il est réédité chez Pocket. Merci à vous toutes et tous.
En tout cas, voilà le coup de cœur du festival. Je crois que là, vous voyez mieux pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore et ce que nous apporte l'écrivaine Aurélie Wallenstein. Écoutez, nous, au festival, on est tout à fait ravis de l'avoir accueillie déjà depuis un moment, de l'avoir repérée et puis d'avoir estimé qu'elle était justement au tournant peut-être de cette carrière littéraire où elle s'affirme vraiment comme une auteure pleine de talent et pleine de possibilités. C'est tout ce qu'on lui souhaite, ce n'est qu'un début. Et en tout cas, on est persuadé qu'on va lire très longtemps vos romans, que vous allez gagner un public de plus en plus large, et qu'on a bien fait de dire que nous, en tout cas, on croit en vous, et qu'on espère que vos livres vont vraiment apporter beaucoup de bonheur au lecteur. La littérature, ça pense en partie nos plaies, et ça nous rend heureux. C'est déjà un bel objectif, et en tout cas, vous y correspondez. La fille de Tchernobyl et Chevaux de foudre chez Maillard pour les jeunes lecteurs, et puis pour les grands adolescents, les adultes que nous sommes les uns les autres, Le Roi des Fauves, chez Scrignero, Les Loups Chantants, chez Scrignero, et La Mort du Temps, chez Scrignero. À vous maintenant de découvrir sous la bulle du livre, de faire signer vos ouvrages, et je vous souhaite beaucoup de bonheur pour les livres d'Aurélie Wallenstein. Merci Aurélie, à bientôt.
Merci à vous.
Merci à vous. Merci à notre lectrice.